And his only answer is no. And I'm scoring high and I'm scoring low, but you can't say I don't try. But at the end of the night I get shut down by somebody else. Cause I
écoutez Radio France Internationale, il est midi en temps universel, 14h à Beyrouth.
RFI midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner.
Avec à la une la situation dans le sud du Liban où l'armée israélienne poursuit son offensive terrestre.
Une offensive lancée il y a 3 semaines. Les médias libanais et israéliens parlent de combats acharnés sur un front qui s'étend sur 120 km. Le Hezbollah revendique des dizaines d'opérations et des centaines de roquettes tirées.
C'est le 27e jour de guerre au Moyen-Orient.
Des attaques de missiles iraniens sur plusieurs pays du Golfe, Irak, Koweït ou encore Émirats Arabes Unis et des frappes israéliennes et américaines sur l'Iran avec toujours cette interrogation concernant les éventuelles négociations ou discussions de paix.
Le Royaume-Uni durcit le ton en autorisant l'interception de certains navires fantômes.
Londres a décidé d'appliquer des mesures plus strictes à l'encontre des navires pétroliers qui tentent de contourner les sanctions qui pèsent sur la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.
Et puis nous reviendrons sur l'hommage national qui a été rendu tout à l'heure en France à l'ancien Premier ministre Lionel Jospin.
Cette cérémonie d'hommage a été présidée par Emmanuel Macron et s'est déroulée aux Invalides. Le chef de l'État a salué une grande figure et une grande exigence intellectuelle que représentait Lionel Jospin.
RFI Midi.
Et pour commencer donc la situation dans le sud du Liban où se déroulent de violents combats.
Au sud effectivement du Liban, l'armée israélienne poursuit son offensive terrestre. Cette offensive a été lancée il y a 3 semaines dans le but déclaré d'atteindre le fleuve Litani pour établir une zone tampon le long de la frontière. Les médias libanais et israéliens parlent de combats acharnés sur ce front qui s'étend sur 120 km de la côte méditerranéenne au contrefort du Golan syrien. Paul Khalife, les affrontements se poursuivent ce midi après une nuit marquée marquée par de violents échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah.
Effectivement, Olivier, des tirs sporadiques sont entendus surtout dans le secteur sud-est du Liban Sud, là même où les troupes israéliennes ont tenté une percée majeure ces dernières heures. Les combats qui ont éclaté mercredi sur cet axe étaient, de l'avis des observateurs, les plus violents depuis le début de l'offensive terrestre israélienne. Le Hezbollah a revendiqué 87 opérations, un nombre record dans l'histoire de ses guerres avec Israël. Le parti chiite a annoncé avoir tiré des dizaines de salves de roquettes sur des regroupements de soldats israéliens en territoire libanais ou dans le nord de la Galilée. Des médias israéliens parlent de 600 projectiles lancés en moins de 24 heures. Le Hezbollah a annoncé avoir tendu une embuscade à un escadron de chars qui tentait d'avancer vers une localité située à 6 km du Litani. Des combats rapprochés ont eu lieu en plusieurs points du front. Le parti chiite a enfin revendiqué le tir d'un missile sol-air sur un hélicoptère, une information confirmée par des sources israéliennes.
Alors Paul, est-ce que l'armée israélienne a enregistré des avancées importantes dans son offensive?
Les localisations indiquées dans les communiqués du Hezbollah permettent effectivement de confirmer une progression des troupes israéliennes, surtout à l'extrême sud-est et dans le secteur central de la zone frontalière. La profondeur maximale de l'avancée est de 7 km. L'armée israélienne tente de prendre en tenaille la grande bourgade de Bintish Beil, à 4 km de la frontière, et qui constitue un verrou important commandant l'accès à de vastes régions du sud Liban. À ce stade de l'offensive, Olivier, les troupes israéliennes ne sont pas encore parvenues à occuper des hauteurs stratégiques qui leur donneraient un avantage décisif dans la bataille en cours.
Paul Ralifet en direct de Beyrouth.
Et nous en sommes aujourd'hui au 27e jour de guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran.
Et la guerre continue de s'étendre au Golfe. Deux personnes ont été tuées par la chute de débris d'un missile iranien intercepté dans la périphérie de la capitale émiratie Abu Dhabi. L'Arabie Saoudite et le Koweït ont également indiqué faire face à de nouvelles attaques. Des tirs de missiles iraniens ont aussi visé Israël. 6 personnes blessées ce matin dans une ville arabe du centre d'Israël après le tir d'un ou plusieurs missiles iraniens.
On le voit, la guerre touche presque tous les pays de la région de l'Arabie Saoudite. Dit à l'Irak. En revanche, le Yémen reste épargné.
Une exception qui interroge, alors qu'un tiers du territoire est tenu par les rebelles houthis, fidèles alliés de Téhéran, mais le groupe armé ne s'implique pas dans cette guerre régionale. RFI a pu joindre par téléphone des yéménites qui craignent d'être entraînés dans un nouveau conflit. Des témoignages rares recueillis par Noé Pignied. Les prénoms ont été modifiés.
Après 12 ans d'une guerre civile qui a ravagé le pays et plongé 80% de la population sous le seuil de pauvreté, la trêve reste fragile entre les rebelles et le gouvernement d'Aden, Yazan via Avamar, au cœur du territoire contrôlé par les Houthis.
La population, ma famille, mes proches, ne peuvent pas survivre. Pas de travail, la nourriture, l'absence des soins. Imaginez aujourd'hui une nouvelle guerre, cela veut dire préparez-vous pour partir en enfer.
Après le 7 octobre 2023 déjà, les Houthis avaient ouvert un front de soutien à leurs alliés du Hamas. Sous le patronage de l'Iran, ils avaient bombardé des navires en mer Rouge. La réplique américano-britannique avait fait une centaine de morts et détruit de nombreuses infrastructures au Yémen. Rachid Abid Sanaa, la capitale.
Les gens sont encore en train de se reconstruire et de réparer les dommages causés par la guerre.
Mais le jeune homme en est persuadé, les Houthis finiront par être entraînés dans l'escalade régionale.
À un moment, ils vont être obligés de soutenir l'Iran. Pour l'instant, ils se préparent. Ils attendent le bon moment pour s'engager. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai peur pour ma famille.
En entrant en guerre, Sanaa pourrait à nouveau interrompre le trafic maritime en mer Rouge. Une entrave de plus au commerce international, déjà paralysé par l'Iran dans le détroit d'Ormuz.
Et alors que les bombardements se poursuivent en Iran et au Liban, le Pakistan affirme que des discussions indirectes sont en cours entre les États-Unis et l'Iran.
Donald Trump assure que Téhéran veut un accord pour mettre fin à la guerre, mais hier, Sarah Krakovitch, un responsable iranien, a rejeté le plan proposé par les Américains et exposé les 5 conditions de Téhéran.
Sur la chaîne d'État iranienne Presse TV, un responsable iranien l'affirme. Téhéran souhaite l'arrêt complet des agressions et assassinats commis par l'ennemi et la fin totale de la guerre sur tous les fronts et pour tous les groupes de résistance impliqués dans la région. La République islamique souhaite des garanties que la guerre ne lui sera pas réimposée. Le paiement des dommages de guerre et des réparations fait aussi partie des conditions. Dernier point, la reconnaissance internationale et des garanties sur sa souveraineté et son autorité sur le détroit d'Ormuz, où près de 20% du pétrole mondial est actuellement bloqué. bloquée. La proposition américaine en 15 points, elle, n'a pas été rendue publique. Difficile donc de savoir à quel point les conditions des deux pays sont éloignées. De son côté, Donald Trump demande à l'Iran, je cite, de devenir sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Les initiatives diplomatiques se multiplient depuis quelques jours, mais les perspectives d'un cessez-le-feu réel semblent encore bien loin. En attendant, les bombardements quotidiens se poursuivent partout dans la région.
Et ces incertitudes autour des discussions là, donc, entre les États-Unis et l'Iran font monter les cours du pétrole de 5%.
Cette guerre au Moyen-Orient, donc, on le voit, elle perturbe l'approvisionnement énergétique de la planète.
Et prenons la direction de la Thaïlande. Le prix du carburant a bondi aujourd'hui d'environ 20% après la réduction des subventions sur le diesel et l'essence décidée par les autorités face à la flambée des cours mondiaux de pétrole. Reportage de notre correspondant Valentin Sébron dans une station-service à Bangkok.
Réveil amer pour des millions d'automobilistes thaïlandais confrontés à une flambée des prix du carburant sur fond de conflit au Moyen-Orient. Komfa, livreuse de repas venue ravitailler sa mobylette dans une station-service du nord de Bangkok.
Je le vois bien, les prix ont fortement augmenté. D'habitude, je faisais le plein avec 200 bahts, 5,30 €. Aujourd'hui, il faut 60, 1,60 € de plus. L'impact est réel. Du coup, je dois dépenser davantage. Et ça pèse à la fois sur mes revenus par course et sur mes gains quotidiens.
En cause, la baisse des subventions de l'État sur le diesel et l'essence, qui se traduit par une hausse d'environ 6 bahts, soit près de 16 centimes d'euros. Pour Boone, la situation devient difficile.
Une hausse d'un ou deux bahts, ça passe encore. Mais là, 6 bahts, c'est énorme. Et au final, tout dépend du carburant.
Une augmentation qui devrait se répercuter sur toute l'économie en faisant grimper les coûts de transport et de production et en accentuant la pression sur les prix alimentaires et les produits de première nécessité. Réunis en urgence, le gouvernement a prévu des mesures pour soutenir les ménages et les secteurs les plus exposés. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
Direction Cuba, à présent, où la situation sanitaire est préoccupante.
L'île a connu deux coupures de courant générales la semaine dernière, notamment à cause du manque de carburant. Depuis janvier, les États-Unis ont durci leur embargo et imposent un blocus énergétique contre Cuba. Les habitants manquent d'électricité, d'eau, de courant, de médicaments ou encore de nourriture. Justine Fontaine a pu joindre Eliane Pérez, un habitant de La Havane, qui est aussi patron d'une petite entreprise.
L'embargo a des conséquences directes sur le développement économique, sur le bien-être des habitants, c'est vrai. Sauf que dès qu'il y a un problème à Cuba, la première chose que font les autorités, c'est d'organiser une conférence de presse et de dire que tous les problèmes, c'est à cause de l'embargo. Mais ce n'est pas si simple. Le gouvernement a aussi une grande part de responsabilité. Il faut que ça se termine, soit par le départ de ceux qui gouvernent actuellement, soit par une intervention états-unienne. Je ne soutiens absolument pas l'idée d'une intervention. J'espère que ça ne se produira pas, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre issue.
Le Parlement européen valide l'accord douanier avec les États-Unis par une très large majorité, 417 contre 154. Les députés européens ont validé ce matin l'accord douanier de Turnberry, signé en juillet en Écosse par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen et Donald Trump. Cet accord était censé mettre fin à la guerre commerciale des droits de douane décrétés par les présidents. Ces mêmes droits de douane ont été invalidés par la Cour suprême américaine il y a un mois. Et malgré le flottement transatlantique provoqué par cette décision de justice, les députés européens décident tout de même de voter l'accord, mais Pierre Benazet avec des garde-fous substantiels.
Oui, parce que ce feu vert des députés, ça a tout d'un feu rouge, tellement ils mettent de conditions à l'application de cet accord avec les États-Unis, surnommé par certains la capitulation de Turnberry. Le Parlement demande par exemple de limiter l'accord à 2 ans, de ne l'appliquer que si les Américains tiennent leurs engagements et d'y ajouter une réduction des droits de douane sur l'acier. À la Commission du commerce international du Parlement, le centriste Pascal Canfin ne voit dans cet accord qu'un seul avantage théorique, c'est d'apporter de la prévisibilité, mais en l'état, les conditions ne sont pas remplies. Selon lui, cet accord ne pourrait pas aujourd'hui entrer en vigueur.
Avec l'attitude de Donald Trump qui exerce du chantage permanent sur à peu près tous les sujets, il est préférable de ne pas s'engager dans un accord selon les modalités totalement inéquitables, à savoir 0% de droits de douane pour 400 produits américains en Europe et 15% de droits de douane en échange pour les produits européens en Amérique. On voit bien que c'est un accord qui est profondément inéquitable et qu'on ne peut pas accepter.
Les États-Unis avaient menacé l'Europe de la priver de gaz américain si le Parlement ne donnait pas son feu vert, mais le problème est uniquement reporté puisque sont maintenant les 27 capitales qui vont devoir faire face au casse-tête.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles.
La guerre se poursuit entre l'Ukraine et la Russie.
Un drone s'est écrasé en Roumanie après des frappes aériennes nocturnes russes. En Ukraine, aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés.
Et puis la lutte contre les navires fantômes russes s'intensifie.
Après la Belgique, la France et la Finlande, le Royaume-Uni va autoriser l'interception des navires de la flotte fantôme qui permet à la Russie d'exporter son pétrole malgré les sanctions. Décision qui intervient alors que les États-Unis ont décidé d'alléger temporairement ces sanctions pour atténuer l'envolée des prix du pétrole suite à la guerre en Iran. Daniel Valo, bonjour.
Bonjour.
Il y a donc cette menace d'un choc pétrolier, mais pas question pour Londres de baisser la garde face à la Russie et à ses exportations d'or noir.
Oui, le Premier ministre britannique Keir Starmer estime que Vladimir Poutine se frotte les mains depuis que la guerre en Iran a débuté parce que, dit-il, la hausse des prix du pétrole va lui permettre de financer sa guerre en Ukraine. La marine britannique sera donc autorisée dorénavant à s'emparer des navires transportant du pétrole russe et le dirigeant britannique l'annoncera officiellement ce jeudi en Finlande à l'occasion d'une réunion de la force expéditionnaire conjointe, une alliance qui réunit le Royaume-Uni et 10 pays d'Europe du Nord.
Aujourd'hui, je vais parler avec nos alliés de ce que nous pouvons faire de plus face à la Russie. Et aujourd'hui, je dirai clairement que j'autorise le Royaume-Uni à intercepter les navires de la flotte fantôme russe. Ces navires qui enfreignent illégalement les sanctions, généralement en transportant du pétrole.
Les interceptions pourraient avoir lieu notamment dans la Manche et dans la mer du Nord, ce qui contraindra les navires à des routes plus longues et plus coûteuses selon les autorités britanniques. Celles-ci devront cependant obtenir l'aval du Parlement pour toute opération engagée contre un pétrolier. Au total, 544 navires ont été classés par Londres comme faisant partie de cette flotte fantôme.
Daniel Valo du service international de RFI.
Enfin, un hommage national rendu tout à l'heure en fin de matinée à Paris à l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, mort dimanche à l'âge de 88 ans.
Lionel Jospin a effectivement reçu un hommage aux Invalides devant de très nombreuses personnalités politiques de tous bords. Cérémonie durant laquelle le président Emmanuel Macron a voulu rappeler grandes réformes votées entre 1997 et 2002, quand Lionel Jospin dirigea un gouvernement de cohabitation.
Lionel Jospin a modernisé la vie économique, sociale et démocratique de la nation de manière inédite. Le gouvernement qu'il menait fit adopter la loi sur les 35 heures, mit en œuvre la couverture maladie universelle, institua la parité dans les élections, réduisit le chômage, soumit à référendum le quinquennat présidentiel. Il fut signataire de l'accord de Nouméa prenant ses responsabilités sur la Nouvelle-Calédonie et défendit les engagements européens de la France, permettant aussi à la monnaie unique d'advenir. Ce fut aussi le premier gouvernement à reconnaître que l'amour entre personnes de même sexe devait être source de droit. Ce fut le Pax ouvert à tout. Première étape vers le mariage pour tous.
Les obsèques seront célébrées cet après-midi au cimetière du Montparnasse. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cet hommage plus personnel, ouvert au public avec des prises de parole de plusieurs responsables de gauche. 13h15 à Paris, la suite d'RFI midi avec vous, Anne Cantner.
Olivier Sherman pour le journal et la suite, ce sont les sports. Dans une excellente ambiance. Bonjour Olivier Pron.
Toujours. Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avant de parler football, on va dire un mot de tennis avec un Français. Session HTR.
You say please. Say please.
تنحموا بالدباجي والحلي والحولل تنحموا بالدباجي الانرجي والحلو والحوله الجاسية العينين نجدية الحشا عراقية الأطراف نوبية الكفل هيامية الأبدان عسية اللامة وزاعية الأسنان درية القبل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنحم الدماجي والحلي والحولن تنحم بالدماجي والحلي والحولن تنحم والحولل تنحو بالدباجي والحلي والحولل والحلي والحولل والحلي والحولل والحلي والحولل والحلي والحولل والحلي والحولل وال 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 والحلي والحولل والحلي والحولل
Le mix de toutes les cultures, c'est sur
HTR. Kirk Millen alongside the King of Fire.
Little you, we can't believe I you that man say. Used to see you walk a woman and your khaki pants with your books and your school bag. We did it all go wrong. One time it used to be right. Your mother fret when she hear you gone with friends at night. Listen my song. I woulda tell them a gangster nah no heart. Them my man's not carry gun. Pan West, Pan West. Woulda tell them a big man nah lock down the place. All a thump in a face, in a face. Woulda tell them a demon live a helper with legion. No care you a who, are you a who? I miss a who that, a who that. Big chat a who that, little you that are you.
Just look how you make mama a ball. Talk about your gun, them big and your gun, them tall. Look how you make mama a ball. I know you can't return the car, your on the wall. Look how you make mama a ball. You should answer the phone every minute, me say, when mama call. Oh, you make mama a ball. And see them knowing how you wanna, you go crawl. See them.
Who that tell them a gangster, nah, no heart. Them a monster carry gun, from west.
Yeah, man, sir.
From west. Who that tell them a big man, a lock down the place, all a jump in a face.
Yeah, man, sir.
In a face. Who that tell them a demon live a help our religion, no care you a who. And you a who, and me say, who that tell that. Bitch, I tell you that little you, that are you.
See them now. Your baby mother start to fret. Oh, should even know the next move, should even know the next step. Oh, you run your life to a wreck. I know your bad mama all a ball and daddy all a sweat. Hey. Well, him say him never wrap up. That's why everywhere him go, him off the top. Don't fear the soldier and him don't fear the cop up. See, they know that's why him crack up.
I saw me sing, who that tell him a gangster, nah, no heart. Them a monster carry gun, pan west, pan west. Who that tell him a big man, a lock down the place. All a jump in a face. In a face, who that tell my demon live a helper with legion? No care you a who, and you a who? I me say who that, bitch I tell you that, little you that are you. Hey hey, I still see in these days, his story always on my mind. While mother goes to church to pray for a son she left far behind. Him not the same little boy she once knew. Him no even talk to her again. So praying is all she can do.